Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français. Aujourd'hui, je suis Tui. Dans l'émission The Voice of Indonesia, je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, les infos de l'Indonésie et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Aujourd'hui, samedi, le 20 avril 2019, je vais vous accompagner pendant 60 minutes. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. On estime que les élections simultanées étaient nécessaires à être révisées. Rabita Alawi a dit, le résultat des élections sont importants, mais l'unité est plus importante. Les États-Unis apprécient les élections indonésiennes 2019. Le gouvernement indonésien collabore avec les conseillers juridiques pour faire face à la discrimination de l'huile de palme par l'Union européenne. La réunion du conseil exécutif d'OANA s'est tenue au Vietnam. Chers auditeurs, voici le journal complet. Le recteur de l'Université catholique de Widya Mandira Kupang, Nusa Tenggara de l'Est, Pater Philippus Thule, a déclaré que le système des élections législatives présidentielles et vice-présidentielles simultanément devait être séparé afin que les gens aient la possibilité de choisir des représentants du peuple qualifié. Philippus Thule a déclaré vendredi à Kupang que la concentration des électeurs lors des élections simultanées de 2019 uniquement axée sur l'élection présidentielle, tandis que les élections législatives ont reçu moins d'attention en raison diverses questions de la campagne présidentielle. Ainsi, dans le processus de sélection des représentants du peuple sur la base des relations de parenté et ignorer la qualité des membres du conseil élu. Philippus a déclaré que cela était lié à l'idée du vice-président Yusuf Kala qui souhaitait la séparation des élections législatives et de l'élection présidentielle 2024. Selon lui, le système électoral simultané de 2019 est très compliqué, même s'il a un impact positif sur les économies budgétaires, mais il ne produit pas de députés qualifiés. L'organisation islamique qui est le forum officiel de Habib en Indonésie, Rabita Alawiyah, ont déclaré que les résultats des élections étaient importants, mais l'unité nationale était plus importante. C'était la déclaration officielle du président de Rabita Alawiyah, Habib Zain bin Smith, à Jakarta vendredi dernier. Habib Zain bin Smith a souligné que son organisation n'était pas liée aux affaires politiques pratiques. Mais en tant que peuple de la nation qui aime le pays, Rabita se préoccupait toujours des intérêts politiques nationaux. Il espère la Commission électorale générale d'Indonésie ou en Indonésie, Komisi Pemilihan Umum ou abrégé en KPU, maintiendra la justice et l'honnêteté dans l'achèvement du compte des voix. Il espère également que toute la communauté maintiendra son unité. Habib Zain estime que les élections ou toute la célébration de la démocratie sont un moyen de former un gouvernement juste qui représente réellement le peuple et renforce l'unité nationale. Morgan Ortagus, porte-parole du département d'État des États-Unis, s'est félicité de la mise en œuvre des élections présidentielles et législatives simultanément pour la première fois en Indonésie le 17 avril. Comme cité par Antara, Morgan Ortagus a déclaré dans une déclaration à Jakarta vendredi dernier qu'une campagne pleine d'enthousiasme et la participation globale du public, de la société civile et des médias indonésiens ont souligné la force et la dynamique de la démocratie. Elle a ajouté que les États-Unis étaient impatients de collaborer avec les responsables élus en Indonésie par le biais d'une coopération économique accrue, de relations de sécurité solides et de priorités politiques communes. Le gouvernement indonésien formera une équipe spéciale pour faire face à la discrimination de l'huile de palme indonésienne par l'Union européenne. L'équipe comprendra des ministres ou institutions, des hommes d'affaires et des avocats pour lutter contre la discrimination de l'huile de palme. Le directeur général du commerce extérieur du ministre du Commerce, Oke Nurwan, a expliqué récemment que la formation de cette équipe était le résultat de la visite du ministre de la Coordination des Affaires économiques, Darmin Nasution, il y a quelque temps. Cette équipe sera formée comme anticipation si l'acte délégué est effectivement inauguré par la Commission européenne. Il a ajouté que l'équipe travaillera après les efforts pour combattre une campagne européenne visant à isoler et à exclure l'huile de palme du secteur des énergies renouvelables. Selon OK, il y a environ 5 avocats de différents pays qui vont coopérer avec le gouvernement. Après cela, le gouvernement apprendra ce qui peut être poursuivi en justice contre les décisions prises par l'Union européenne. La 44e réunion du conseil d'administration de l'Agence de presse Asie-Pacifique, ou abrégée en OANA, a été ouverte dans la capitale vietnamienne, Hanoï, vendredi le 19 juin sous le thème « Pour un journalisme professionnel et innovant ». Dans cette réunion, les participants ont discuté des 3 ordres du jour, à savoir la stratégie de l'agence de presse face au changement des habitudes de consommation des consommateurs, les fausses nouvelles et l'examen des faits, ainsi que les efforts visant à restaurer la confiance du public dans les grands médias. Cette réunion était assistée également par le directeur adjoint de l'agence de presse turque, Anadolu Mustafa Oskaya. Comme indiqué par Antara, Anadolu a exprimé le souhait d'accueillir le conseil d'administration de la réunion OANA en 2020 lorsque l'agence de presse Anadolu célèbre son 100e anniversaire. Mustafa Oskaya a ajouté que le conseil d'administration de l'OANA se compose de 44 agences de presse de 35 pays membres, a déclaré qu'il souhaitait tirer davantage parti de l'expérience de l'agence de presse Anadolu dans les organisations internationales, le développement, la technologie et les nouveaux médias. Chers auditeurs, c'est tout le journal aujourd'hui.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie. La première info vient de Sumatra Sud. Le gouvernement central supervise et répare le transport des rivières, des lacs et des traversées, SDP. Cette étape consiste à anticiper ce qui n'est pas souhaitable après le naufrage du bateau Sinar Bangun dans le lac Toba il y a un an. Le directeur général des transports terrestres, Budi Setiadi, a déclaré que son parti était en train de prendre des dispositions pour le transport fluvial et lacustre, à la fois en termes de réglementation, d'installation, d'infrastructure et de ressources humaines. L'un d'entre eux se trouve dans la rivière Musi, à Sumatra Sud, qui a été désigné comme projet pilote de transport fluvial national. Le transport fluvial à Sumatra Sud est axé sur la région de 16 Ilir et les 7 Ulu Palembang. La sélection des régions 16 Ilir et 7 Ulu à Palembang est également due au fait que l'emplacement est le point de départ pour l'intégration d'activités communautaires appuyées par l'intégration de modes tels que le LRT, le BRT, Transmusi, le transport fluvial, les marchés et le tourisme nautique. Ensuite, l'info de Pontianak, Kalimantan Ouest. L'application Mitra Gambut 2.0 facilite l'accès aux informations sur les efforts de conservation des tourbières pour ses utilisateurs, y compris les habitants du village Sungai Mata-Mata dans le district Simpang Hilir, en région Kayong Nord, Kalimantan Ouest. Adi Shahputra, 48 ans, résident du village Sungai Mata-Mata, a déclaré dimanche que grâce à cette application, la communauté pourrait échanger des informations sur la gestion des tourbières, ce qui pourrait le voir dans d'autres applications telles que des moyens de transformer et de prospérer la communauté, mais n'endommage pas les tourbières. Adi est l'utilisateur actif de Mitra Gambut 2.0, figure en troisième position dans la liste des utilisateurs qui transmettent le plus d'informations par le biais de l'application. Il a suivi une formation et est maintenant les responsables de village et les animateurs à rencontrer les résidents pour mener des activités d'information et d'éducation sur la gestion et la conservation des tourbières. La dernière, l'info de Jakarta. Les visiteurs ont envahi le parc animalier de Ragunan au sud de Jakarta et ont profité de l'élan des vacances électorales 2019 en raison des promesses offertes, qui étaient des entrées gratuites après avoir donné le droit de vote à l'élection 2019 le mercredi. Selon Wuri, l'un des visiteurs qui rend des visites avec sa famille, Ragunan était devenu son choix lors des vacances électorales 2019 car les promos données, à savoir une entrée gratuite, auraient pu être réalisées et pouvait constituer une preuve d'encre sur le doigt. À la même occasion, Tari, un visiteur de Ragunan, a également déclaré que sa famille et elle avaient profité des vacances électorales 2019 à Ragunan en raison des promos données par Ragunan. Wahyudi Bambang, membre du personnel du service d'information du parc animalier de Ragunan, s'est dit optimiste quant au fait que les visiteurs atteindront entre 30 000 et 80 000 visiteurs lors de cette occasion. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie. Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 20 avril. On commence avec l'accident de l'avion Boeing 727-200 d'Air France. Le 20 avril 1998, l'avion qui décollait de l'aéroport El Dorado Bogota, la capitale de la Colombie, s'est dirigé vers Quito, la capitale de l'Équateur. Mais peu après son décollage, l'avion s'est écrasé dans les montagnes près de Bogota. Le terrible accident a tué 43 passagers et 10 membres d'équipage de cabine. C'est toujours un mystère pourquoi l'avion sophistiqué peut frapper la montagne. En fait, le Boeing 727 est un avion conçu pour fonctionner dans des aéroports où les installations terrestres sont inadéquates. Le Boeing 727 peut atterrir sur une piste courte à pleine charge, en particulier pour les hautes fréquences. Le 20 avril 1999, le meurtre de masse au lycée Colombine. Deux étudiants du lycée Colombine à la ville Littleton, à Colorado, aux États-Unis, ont abattu leur propre ami. Des coups de feu aveugles tirés à l'école ont tué 12 élèves et un enseignant et blessé plus de 20 autres. Ensuite, les deux étudiants nommés Dylan Claybot et Eric Harris se sont suicidés. Cet incident était considéré comme le tir le plus meurtrier à l'école et la deuxième attaque la plus puissante contre une école de l'histoire des États-Unis après la tragédie de l'école de Bath. La dernière, la Journée nationale du consommateur. La détermination de la Journée nationale du consommateur repose sur le décret présidentiel numéro 13 de 2012 concernant la Journée nationale des consommateurs. Le choix du 20 avril comme Journée nationale des consommateurs est basé sur la date de publication de la loi numéro 8/1999 concernant la protection des consommateurs. Les objectifs de la Journée nationale du consommateur incluent des efforts visant à renforcer la sensibilisation à l'importance des droits et des obligations des consommateurs et à encourager le gouvernement à s'acquitter de sa tâche consistant à développer les efforts de protection des consommateurs en Indonésie. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini. Tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa. Cintaku hanya untukmu. Hidup dan matiku. Bila musim berganti sampai waktu terhenti, walau
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Virgun dont le titre est Surat Cinta untuk Starla, qui signifie la lettre d'amour pour Starla. La rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici mon Indonésie et en titre, BI a socialisé la mise en œuvre du commerce avec les devises locales de l'ASEAN. Banque Indonésia, BI, poursuit la socialisation de la mise en œuvre du commerce transnational en utilisant la monnaie locale LCS dans l'ASEAN avec les banques facilitatrices et les importateurs et exportateurs potentiels. Selon le directeur exécutif du département de la communication de Banque Indonésia, Oni Wijanarko à Jakarta, mardi, il conviendrait d'intensifier la LCS car elle est capable de développer le marché en monnaie locale, d'accroître l'efficacité des transactions commerciales et de stabiliser le taux de change de rupiah. Banque Indonésia compte sur LCS en tant que transaction commerciale alternative entre pays, outre de l'utilisation de dollars américains. Selon ONI, le règlement des transactions commerciales bilatérales avec la Thaïlande et la Malaisie, facilité par la banque Appointed Cross Currency Dealer Bank, ACCD, en Indonésie, a montré des progrès positifs. À titre d'illustration, jusqu'à la fin du premier trimestre 2019, le total des transactions commerciales par le biais de LCS utilisant le baht thaïlandais a atteint 13 millions de dollars américains, soit l'équivalent de 185 milliards rupiah. Ce chiffre montre une augmentation par rapport à la même période de 2018 d'un montant de 7 millions de dollars américains, soit 96 milliards rupiah. Cependant, pour les transactions en monnaie locale LCS utilisant le ringgit malaisien MYR, le montant a atteint 70 millions de dollars américains, soit 1000 milliards rupiah. Ce nombre a fortement augmenté par rapport à la même période en 2018 pour atteindre 6 millions de dollars américains, soit 83 milliards rupiah. La mise en œuvre de la LCS fait suite à la signature d'un protocole d'accord entre la Banque d'Indonésie, BI, la Banque Negara Malaysia, BNM, et la Banque Centrale de Thaïlande, BOT, le 23 décembre 2016, afin d'encourager l'utilisation du LCS. Cela fait partie des efforts des trois banques pour réduire leur dépendance au dollar américain, améliorer le développement du marché en monnaie locale et effectuer des transactions directes entre acteurs du marché, commerce direct, de manière à ce qu'ils contribuent à l'efficacité du marché et maintiennent la stabilité du taux de change. L'utilisation de LCS dans la région a encore été élargie et renforcée par un accord entre BI, BNM, BOT et la Banque centrale des Philippines lors de la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales de l'ASEAN, réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales le 5 avril 2019 à Chiang Rai, Thaïlande. Cher ami, c'était mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Kita berdua jadi ngepacar.
Voilà la chanson de Potret dont le titre est Possessif. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz, vous pouvez écouter notre émission au site de www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers amis, nous continuons notre émission avec le magazine culturel et un petit titre, Glace Petrus de Pontianak. La cuisine typique en Indonésie est variée, allant de la nourriture aux boissons typiques et tentantes. À Pontianak, Kalimantan occidental, vous trouverez une boisson spéciale, la Glace Petrus, qui est également une icône de la fraîcheur de cette ville équatoriale. Cette glace s'appelle la glace Petrus car le marchand de glace se trouve en face du lycée Petrus à Pontianak. Alors maintenant, cette glace a été gérée par la troisième génération. Il existe six types de glace offerts: chocolat, fraise, cempedak, jacquier, durian et vanille. La glace remue est très douce et sucrée sur la langue. Il est approprié pour se désaltérer dans la ville de l'Équateur. La particularité de la glace Petrus est d'utiliser toujours des ingrédients locaux, des haricots rouges, aux algues et les cincau. Autre particularité, en plus d'être servie dans des verres à glace, cette glace Petrus est également servie dans de jeunes coquilles de noix de coco coupées en deux. Le prix de cette glace Petrus est 8000 rupiah pour la taille d'une coupe de glace et 15000 rupiah pour les grandes portions. Vous sentirez une sensation de froid et de fraîcheur dans chaque cuillère. surtout si vous choisissez une glace au durian ou une glace au cempedak. Le durian et le parfum de cempedak ajouteront au plaisir de cette saveur de la glace Petrus. Afin de préserver le goût, le vendeur de glace Petrus ne fabrique pas de la glace Petrus aux fruits hors saison. Une autre caractéristique unique de la glace Petrus est que la garniture de la glace n'est pas saupoudrée sur la glace, mais placée sous la glace. La glace Petrus est fabriquée à la main ou à la maison, en plus du lait de coco frais. Vous pouvez également apporter cette glace Petrus comme souvenir sans craindre que la glace ne fond. Vous n'avez qu'à choisir une grande portion de glace, par exemple 1 litre. La glace sera bien emballée avec de la neige carbonique et cela peut durer jusqu'à 8 heures. Si vous aimez les glaces et que vous êtes toujours curieux de connaître le goût des glaces que vous n'avez jamais goûtées, alors si vous êtes à Pontianak, prenez le temps de savourer une glace qui existe depuis 1950 à Pontianak. Cher ami, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. À demain!
Voice of Indonesia.
Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui fournit des informations sur les événements intéressants en Indonésie. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Chers amis, voici l'Indonésie en couleur et en titre. L'instrument de musique Celentung a battu le record du monde. Le spectacle musical Celentung, présenté par les étudiants au Champ Garut, Java Occidental, au Festival Festif du Champ Culturel de Garut 2019, a été enregistré comme battant le record du monde de la Record Holder Republic. Celentung est un nouvel instrument de musique typique de Selawi, une région en régence Garut, qui a été présenté au Festival Festif du Champ Culturel de Garut 2019. Les participants ont apporté deux chansons, à savoir la chanson Indonesia Pusaka et la chanson traditionnelle dans les 10 minutes. Le samedi 6 avril 2019, le garde-document basé aux États-Unis a évalué le jeu Celentung qui s'est déroulé au Champ Garut en tant que détenteur du record du monde. Le plus grand nombre de participants étant présenté par 206 étudiants. Celentung est un instrument de musique en bambou d'une longueur d'environ 30 cm. Deux pendules montées sur le côté de la sphère de bambou fonctionnent comme batteur. Comment jouer est en bougeant avec une seule main. Les sons produits par Celentung sont différents. Similaires à Angklung, qui est le ton Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, chacun sonne chaque ton à tour de rôle. Le son unique de Celentung est la principale attraction de ceux qui le jouent, surtout s'il collabore avec d'autres instruments de musique, tels que kecapi et kendang. La vice-présidente de Record Holder Republic, Lia Mutisari, a déclaré que ce type d'instrument de musique n'avait jamais existé et qu'il faisait partie d'une catégorie unique selon le monde. Elle espère que ce record permettra à un mouvement culturel de faire connaître l'Indonésie aux yeux du monde. Outre les représentants de Record Holder Republic, les représentants des ambassadeurs de Serbie, de Bosnie et de Slovaquie ont également assisté à l'événement. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Memancarkan rasa keresahan yang terbenam, kerinduan yang tertahan, duka dalam yang tersembunyi jauh di lubuk hati. Kata-kata riuh mengalir bagai gerimis, seperti angin, tak pernah diam, selalu beranjak. Setiap saat menebarkan jala asmara, menaburkan aroma luka, benih kebencian kau tanam.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Cette fois-ci, je vais vous présenter la chanson de Keroncong.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. On se revoit avec moi, Tiwi. Au magazine Musica. Cette édition va vous présenter des informations et la chanson de Keroncong dont le titre est Oh kekasihku, qui signifie Oh mon amour. Cette chanson raconte un désir ardent pour son amant. Leurs beaux souvenirs reviennent en mémoire et ne sont pas facilement oubliés. Cette chanson de Keroncong a été chantée par Elvina Simarmata. Elvina est l'une des jeunes chanteuses talentueuses d'Indonésie qui se soucie de la musique Keroncong. En janvier 2019, Elvina a présenté dans le concert de Keroncong dont le thème est Kisah Mawar ou en français L'histoire de Rose à Jakarta avec d'autres jeunes chanteurs de Keroncong comme Intan Sukojo. La chanson de Kronchong chantée par la génération du millénaire est une combinaison de musique de Kronchong et d'une touche de musique moderne. Bon, chers auditeurs, écoutons la chanson intitulée « Oh, que kasihku » chantée par Erfina Simarmata.
Of Indonesia. Thank you. Voice of Indonesia.
Voilà l'émission quotidienne en français de Voice of Indonesia. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à l'onde courte de 3325 kHz et au site de www.voinews.id. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.